Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous, hein, comme chaque lundi, quel plaisir, hein, 19h, 20h30, votre émission sport, hein, sur la radio web, Mon Paris FM. Alors, la semaine dernière, on avait fêté la 100e, et bien là, on va continuer, on va l'accompagner aujourd'hui de façon encore plus forte. On va d'abord en première partie, on vous l'avait dit, hein, il est responsable d'association, il a écrit un livre, on avait promis de l'avoir, il était déjà venu la saison dernière à ce micro, c'est notre ami Mathieu Nicourt. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Philippe.
Ça va? Pleine forme?
En pleine forme.
T'as passé un bel été?
J'ai passé un bel été.
Ah bon, et puis alors en plus, MMA et romancier, donc on va avoir l'occasion d'en parler. Qui dit MMA, dis donc Benoît. Bonsoir Benoît, ça va?
Bonsoir à tous, ouais. Ça va super.
Ce soir, tu vas pas parler que de MMA.
Ouais, carrément, car on va parler un peu de romance, un peu de lecture, voilà, un peu de littérature.
Et puis je vais saluer mes acolytes, je vais saluer Vanessa. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir à tous, très bien.
T'es en pleine forme? Ouais. Oui. Alexandre, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir Philippe.
Je sais que t'as pas quitté la télé, toi. T'as vu
tous
les
gros événements. J'ai pas quitté la télé. Franchement, gros journal des sports, très chargé.
Oui. Très bien. Et puis, en deuxième partie d'émission, comme on aime tous les sports, hein, bien on recevra, on vous l'avait dit aussi, la section de Courbevoie, la section trampoline avec deux membres de l'INSEP. Alors, il y en a un qui est présent dans ce studio, à qui je vais dire bonjour. On aura ensuite Joël et Mathilde tout à l'heure. Bonsoir Jolan.
Bonsoir.
Oui, merci de ta présence. Ça va? Première
ouais, ça
radio,
va.
Non?
Ça va. Ouais. Ouais, c'est la deuxième.
Deuxième radio, c'est bien, t'es passé sur laquelle la première? C'était laquelle?
C'était une émission sur YouTube.
C'est bien, c'est bien. Bon, c'était une télé, hein. Bon,
oui,
enfin, c'est
ça.
Pas bien. Allez, on va commencer exceptionnellement par la rubrique MMA. Alors, Mathieu, tout d'abord, un petit mot. Comment s'est effectué pour le MMA la rentrée?
Alors, ça se passe très bien. Bah, on a le vent en poupe depuis un petit moment, depuis la légalisation. Et on a toujours plus d'adhérents qui poussent la porte de nos salles. Et on est déjà plein à craquer. Donc, sur les deux salles de Vitry et Paris 13, on a néanmoins toujours de la place. Donc, on accepte toujours les inscriptions.
D'accord.
Donc,
vous êtes combien, alors, à l'heure actuelle, là?
Parcours,
un mois après le début de la rentrée,
modo. On est une vingtaine à une trentaine par cours. Sur la salle de Paris 13, on a un petit peu plus de place. On a une vingtaine par cours et on peut encore accueillir.
D'accord, donc c'est possible de venir encore rejoindre. Voilà. C'est combien le prix de la licence et la cotisation?
Alors ça dépend, il y a des tarifs étudiants à 390 euros, c'est les premiers prix. Voilà, 390 euros à l'année, payable en trois fois, donc c'est très abordable.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a eu indirectement un effet JO? Bon, je sais que le MMA n'est pas trop concerné par les JO, mais est-ce qu'il y a eu un effet de dire tiens, je vais quand même faire du sport, même si ce n'est pas une discipline olympique?
C'est difficile de départager. Il y a forcément, oui, je pense qu'il y a eu un effet JO, un intérêt pour le sport en général. Mm-hmm. Il y a aussi eu un UFC, le plus gros événement
oui,
du MMA
clairement,
à Paris
clairement.
Il n'y a pas longtemps, et je pense qu'il y a aussi un effet UFC.
Oui,
beaucoup, beaucoup.
Benoît, c'est un phénomène qu'on rencontre un petit peu partout dans tous les clubs MMA.
Ben carrément, en fait, on sent que c'est à la mode en ce moment. Il l'a très bien cité. L'effet UFC fonctionne très bien. Il y avait eu l'an dernier un effet Doumbé avec le PFL qui avait organisé le combat Cédric Doumbé contre Baki. Ça avait augmenté un peu l'aura du MMA en France. Plus le dernier UFC avec Benoît Saint-Denis, malgré sa défaite, ça permet quand même aux gens de s'intéresser de plus en plus au MMA et du coup, c'est normal qu'il y ait encore plus en plus d'adhérents. Je pense qu'il y en aura davantage encore.
Alors, venez nombreux, donc ils viennent directement à la salle ou ils vont sur le site internet.
Alors, le mieux, c'est d'aller sur le site internet. Oui. Donc, Free Fight Academy Paris 13e, le site internet www.freefightacademy.net, bouton inscription. Et là, vous avez tout le formulaire, le menu déroulant, les différentes formules, les prix indiqués en face.
Quels que soient les gabarits, les sexes,
les
âges.
Oui, les cours sont mixtes, les femmes sont bien sûr les bienvenues. Oui. Et même si vous n'avez rien pratiqué, vous pouvez tout à fait commencer par le MMA. Il n'y a aucune contre-indication. Au contraire, c'est le cas de plus en plus de compétiteurs maintenant qui vont à très haut niveau et qui ont commencé le MMA sans avoir rien pratiqué avant. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus si vous n'êtes que des pratiquants loisirs et que vous n'avez, enfin que si vous êtes des pratiquants loisirs et que vous n'avez pas d'objectif de compétition aussi. On a un groupe compétiteur, mais on a aussi beaucoup d'adhérents qui viennent en loisir pour se faire du bien, pour se détendre après le sport.
Alors, on l'avait dit lors de la précédente venue, mais c'est un sport qui aujourd'hui est très médiatisé. Hein. Il prend le dessus pratiquement sur la plupart des sports de combat.
Oui, je pense que... Alors,
C'est un phénomène de mode, d'époque ?
Je pense qu'il y a... En fait, moi, j'ai connu ce sport depuis ses tout débuts. Oui. Donc... forcément, j'ai vu monter l'intérêt pour ce sport. Au début, on n'était qu'une poignée, tout le monde nous traitait de fous. Et le phénomène de mode, je pense, dans le monde entier, existe depuis déjà longtemps, depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Mais en France, là, depuis 4-5 ans, depuis la légalisation, il y a un vrai effet, effectivement, on peut dire effet de mode en France, dans le sens où il y a tout un public qui ne s'intéressait pas forcément à ce sport. Et qui s'y mettent maintenant.
Oui. C'est un public qui a laissé un petit peu la boxe, qui était un sport que nous, on a bien connu à notre époque, notre génération. Nous, c'était des grands combats de boxe, hein. Mohamed Ali, Geoffre Azier, George Foreman, Carlos Manzon, Jean-Claude Boutier. Hein.
Oui, le MMA, c'est un peu la suite de l'histoire de la boxe aussi, même si la boxe continue d'avoir sa place, évidemment.
Alors, Mathieu, on en a aussi parlé, il ne fait pas que du MMA, il était aussi comédien, on en avait parlé. Il n'y a pas d'autres films en vue ?
Alors, il n'y a pas de films en vue. Si, il y a. En fait, alors, je n'ai pas participé, enfin, une toute petite intervention, pas en tant que comédien, mais en tant que directeur de cascade pour une scène de combat. Pour un film qui va sortir au mois de janvier, des sœurs Muriel et Delphine Coulin. Et j'ai un trou de mémoire sur le titre.
Oui, bah c'est pas grave, ça ménage un peu comme ça.
Mais en tout cas, avec une belle scène de combat de MMA dans le film, entre autres, à regarder.
Avec, bon, Benoît.
Bien sûr.
avec Vincent Lindon comme acteur principal.
Ah, j'aime bien en plus. Voilà. Ah ouais. Bon, ce qu'on ne savait pas, ce qu'on connaissait moins, c'était donc le Mathieu Nicourt romancier.
Oui, alors ça, c'était...
C'est une vieille passion cachée, secrète.
Oui, en fait, c'est plus qu'une passion, c'était même un besoin. Ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit, même adolescent. Et puis, le phénomène s'est amplifié en vieillissant.
C'est une thérapie, en quelque sorte.
Oui, c'est un peu aussi une thérapie. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Enfin, en tout cas, ça me fait du bien. Voilà, c'était un besoin, c'était agréable de réussir à poser ses idées, à travailler son imagination, en faire quelque chose de concret. Et il y a quelques années, j'ai eu l'occasion dans ma vie de faire un petit break. Je bossais beaucoup, j'avais plusieurs boulots en même temps. Et il y a à peu près 5 ans, j'ai eu l'occasion de me retrouver tout seul sur une péniche pendant un an et demi.
Ah, ça fait réfléchir.
Et où je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Oui. C'est le moment ou jamais. Et là, j'ai repris tous mes écrits, j'ai tout assemblé, j'ai donné corps à l'ensemble, j'ai travaillé sur la trame. Et j'ai fini d'écrire le roman pendant...
Au mois de juin, je crois. Hein. Tu m'as envoyé un petit texto.
Alors en fait, la finalisation du roman, c'était pendant le confinement. Là aussi, on a eu un peu plus de temps.
C'était une façon d'écrire. Hein. Ouais.
Voilà. Et ensuite, il a fallu envoyer aux éditeurs, attendre les retours, etc. Donc ça prend du temps.
On est plus fier de sortir un bouquin ou de gagner un combat ?
C'est différent. C'est différent.
Parce que c'est quand même une victoire contre toi-même, quand même.
Oui, hein. Objectivement.
24 pages blanches, quand même.
Je suis aussi fier des deux. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a eu un moment dans ma vie où le plus important, c'était le combat. Maintenant, c'est l'écriture.
OK.
Alors, ce roman, il est un petit peu autobiographique. Donc, comme certains romans, comme la plupart des romans.
On ne peut pas dire que c'est autobiographique.
Ce n'est plus un roman.
Voilà, d'abord, c'est un roman, c'est une fiction.
Mais il y a un petit peu de...
Il y a forcément un petit peu de moi dedans, il y a un petit peu de mon vécu aussi. Mais il faut savoir que c'est dans un univers héroïque fantasy. Donc forcément, on ne peut plus parler du tout de biographie aussi, parce que c'est une fiction, mais c'est une fiction en plus dans un univers qui n'est pas le nôtre. Après, j'ai voulu... construire des ponts, c'est-à-dire que j'ai pris un autre univers dans le passé, je l'ai fait évoluer pour que finalement, par certains aspects, il ressemble au nôtre. Ouais. Donc du coup, il y a des transferts qui se font, il y a un regard porté sur notre société aussi, à travers le filtre de la fantaisie.
Et comment on arrive à trouver l'idée ? C'est ça qui est fou, parce que écrire, tout le monde doit le faire, mais trouver l'idée ?
Bah, en fait,
c'est ça qui est fou, trouver l'imagination.
Ça s'est fait tout seul.
Ça s'est fait tout seul.
En fait, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Oui. J'ai plutôt le problème inverse, c'est que ça tourne trop vite dans ma tête. C'était pas tellement le problème de trouver quoi écrire, c'était arriver à concrétiser les choses, en fait, arriver à les ordonner. Et je suis très content d'avoir pu le faire.
Et tout seul le roman ? Allez, on peut tout dire entre nous.
Tout seul.
Il n'y a pas eu quelqu'un qui a donné la main.
Il n'y a personne qui a donné la main. Juste, les gens me connaissent plus sous ma casquette de combattant de MMA, entraîneur, mais je suis aussi professeur des écoles. J'ai aussi eu l'occasion de travailler dans le domaine de l'écriture, de la rédaction, dans mes autres activités. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau pour moi non plus. Ouais.
Quelle a été la réaction du monde du MMA ?
Je crois que tout le monde a été très très surpris. Les premières réactions, c'était des réactions de surprise. Alors là, je parle du milieu un petit peu fermé du MMA, qui ne connaissait pas du tout sous cet aspect-là, en dehors de quelques très proches amis, évidemment. Et puis, il y a eu un deuxième effet qui se coule quand ils ont fait l'effort de l'acheter et de le lire, et qui m'ont fait des retours
bien.
Très sympas.
Ça va les obliger à lire. Voilà. Tu vois ce qu'il te reste à faire, Benoît.
Clairement, franchement, c'est inspirant, parce que moi aussi, j'ai découvert la pub sur Instagram, et du coup, j'ai reconnu, je fais match une course, mais c'est pas un écrivain, d'après mes connaissances. Et là, du coup, j'étais surpris, je crois que il y avait un petit interview, je crois, où tu présentais le livre, où je suis plus trop sûr, mais je crois que voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à lire un peu, du coup, la description du livre, etc. Et je me suis demandé, comment il a fait pour faire cette passerelle entre le MMA et son roman ? Et aussi, quelles étaient les sources d'inspiration, du coup, de cet ouvrage ? Là, si je peux te poser la question.
D'abord, je n'ai pas toujours fait du MMA aussi. Moi, le MMA, quand j'étais jeune, n'existait pas.
Ben oui.
Donc, j'avais commencé par les arts martiaux traditionnels, etc. Mais pas du tout, ça n'avait pas l'ampleur que le MMA aujourd'hui. Je n'envisageais pas de carrière comme c'est arrivé avec le MMA. Le MMA, j'ai dû commencer. Je devais avoir 25 ans quand le MMA est arrivé. Enfin, en tout cas, quand on a commencé à en entendre parler. Donc j'ai eu une vie avant le MMA aussi. J'ai connu la période notamment des jeux de rôle, de Donjons et Dragons, etc. Okay. Donc ça a aussi cultivé mon imagination. Et j'étais notamment un grand fan de Tolkien.
C'est ce que je voulais savoir.
J'avais déjà lu le Seigneur des Anneaux 3 fois bien avant les films. J'étais déjà passionné pendant mon adolescence. Et en fait, après, c'était un petit peu... j'ai prouvé le besoin de... Bon, là, j'ai 52 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
Oui,
anniversaire. Tu vois, c'était notre anniversaire d'émission la semaine dernière. Voilà. Là, c'est le tien. C'est un beau cadeau d'anniversaire.
Et en fait, si tu veux, alors que j'ai écrit le livre un petit peu plus tôt, mais quand on s'approche de la cinquantaine, tu as déjà beaucoup de choses à raconter, puis besoin un peu de faire le point. Et c'était un petit peu la façon de faire la synthèse de différentes périodes de ma vie. Donc, le côté littérature, fantasy, Tolkien, etc. Le côté où tu rentres dans le vif du sujet avec tout l'univers du MMA qui est très rude, où là c'est pas de la fantaisie, c'est de la réalité pure, et arriver à mixer les deux pour en faire quelque chose. Voilà, c'était un des objectifs, je crois.
Bon. Super. Et comment t'as écrit ? À la main ? À la machine ?
Ah non, j'écris sur l'ordinateur.
Ouais.
Sur l'ordinateur.
Parce qu'il y a des écrivains qui écrivent encore au papier.
Les premiers écrits, quand j'étais ado, c'était à la main, effectivement.
Ouais.
Mais là, non. Pour le projet, j'étais sur le PC. Ouais.
Et est-ce qu'il y avait des heures ? Parce que là, c'est pareil, quand on écrit, il y en a qui préfèrent écrire tôt le matin, tard le soir, la nuit s'ils sont insomniaques.
Il n'y avait pas de règles, mais souvent, moi, c'est plutôt tard le soir.
Tard le soir, oui.
C'est quand... Alors après, quand il y a eu des moments où je pouvais me permettre d'écrire un peu plus en journée quand j'avais moins d'activités, mais quand j'ai fini le livre, j'avais déjà repris une activité très importante, notamment avec le club de MMA. Et donc en général, je faisais... l'écriture, c'était ma récompense à la fin de la journée. C'est-à-dire quand j'avais traité tout le professionnel, tout ce qui était nécessaire au fonctionnement du club, à l'organisation des événements, etc. Mon objectif, c'était finir assez tôt pour pouvoir écrire après.
Voilà. Et il y a des moments où, comme ça, on se lève, on se dit, tiens, j'ai une idée, je suis inspiré, je vais vite vers la feuille blanche.
Alors ça arrive. Alors, moi, j'ai rarement eu le problème pour l'instant de la feuille blanche.
Oui.
Mais après, il y a des fois une idée qui te trotte dans la tête et là, tu n'as pas ton PC. Oui, ça m'arrivait de l'écrire en notes sur mon téléphone et de reprendre et développer après. Mm-hmm. Ouais.
Et il y a des moments où on sèche, où on n'a pas d'idée.
Alors, pas où on sèche, mais où je me questionne sur l'orientation que ça va prendre. Ça,
d'accord.
Parce qu'effectivement, ça vient... Alors, j'ai souvent une idée de trame générale au moment où j'écris. Mais en fonction, au fur et à mesure que j'écris, il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent. Au fur et à mesure, ça peut prendre une nouvelle direction. Et là, des fois, ça prend un petit temps de réflexion pour faire les bons choix.
Et l'éditeur, ça a été facile à trouver parce que c'est souvent le problème, quoi.
Ouais,
l'éditeur.
Alors, ça, effectivement, c'était ma plus grosse inquiétude. Alors après, je m'étais dit, je connaissais un petit peu j'avais regardé les témoignages d'auteurs, je connaissais... pas dans le style fantasy, mais je connaissais Bernard Werber, l'auteur des fourmis, par exemple, qui doit être un des auteurs français dans la littérature un peu imaginaire qui vend le plus, qui expliquait que je crois qu'il avait envoyé pendant 6 ou 7 ans ses manuscrits à plein de maisons d'édition, y compris l'actuelle, et qui lui avait refusé pendant 6 ans.
Bah, quel problème.
Et donc, je me suis dit, faut peut-être pas que je m'attende à ce que ça marche tout de suite. Et je m'étais dit, il y a aussi des auteurs maintenant, ça se fait de plus en plus, qui arrivent à se faire connaître en étant auto-édité. Mmh. Je m'étais dit que si je ne trouvais pas d'éditeur, je ferais par l'auto-édité.
Oui, mais ça coûte un peu d'argent.
Alors, après, il y a plein de formules. J'avais commencé à regarder un petit peu, mais mon objectif, c'était quand même d'être édité, de trouver un éditeur qui me fasse confiance. Donc, pendant un temps, j'ai été regardé. Donc, moi, mon livre, on pourrait le ranger dans la rubrique fantasy, héroïque fantasy. J'ai regardé un petit peu les éditeurs qui étaient spécialisés dans ces domaines-là. À chaque fois, et c'est long, c'est fastidieux, parce qu'à chaque fois, ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Il y en a qui veulent le bouquin en entier, il y en a qui veulent un résumé, il y en a qui veulent des passages représentatifs.
Oui.
C'est jamais la même formule, et à chaque fois, tu dois t'adapter à l'éditeur. Mais c'est surtout que la plupart des éditeurs n'acceptaient plus, en fait. C'est-à-dire, il y avait écrit « soumission de manuscrits fermée ». Nous n'acceptons plus de manuscrits pendant encore deux... Pendant 2 ans, pendant 3 ans, parce qu'ils en ont trop, parce que là, en fait, ils disent, il y a eu plusieurs messages, on dit, ne nous envoyez plus de manuscrits, parce que là, on n'en prend plus. Et il y en a quelques-uns qui les prenaient encore, dont l'éditeur Rivière Blanche, dont j'ai apprécié la façon de faire, c'est-à-dire que eux, c'était vraiment très méthodique, on ne perd pas de temps, envoie-nous d'abord 3 passages représentatifs, on va pas d'emblée tout lire.
Oui, parce qu'ils lisent pas tout, il faut le dire. Voilà,
ben c'est ça aussi. Il y a quelques-uns qui m'ont jamais répondu aussi, par exemple.
Oui, bah.
Voilà. Et donc, tu as un premier passage, alors ils te répondent 4 mois après, je crois, à peu près, pour les trois chapitres représentatifs. Et puis là, tu as un premier retour. Et là, j'ai la bonne surprise d'avoir un premier retour qui nous disent que... Alors là, c'était un peu particulier parce que la maison d'édition Rivière Blanche, dans les littératures de l'imaginaire, ils sont plus dans le fantastique que dans la fantaisie. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, le fantastique, si je résume au maximum, c'est notre univers à nous dans lequel il se passe des choses extraordinaires. Fantaisie, c'est tout l'univers qui est extraordinaire en un sens, qui est différent. Et donc, eux étaient plutôt spécialisés dans le fantastique. Et ils m'ont répondu. Mais j'avais vu qu'ils avaient édité quand même 2-3 bouquins de fantasy, donc je me suis dit je tente et on verra bien.
Ouais.
Et ils m'ont répondu, écoutez, je vais commencer par les problèmes. Le problème, c'est que c'est de la fantasy et on n'en fait pas ou presque pas. Et en fait, il a continué comme ça. Par contre, c'est ce que j'ai vu de mieux depuis très longtemps. Dans ce domaine-là, donc on va vous le prendre.
On peut le faire, oui. Ils n'ont pas demandé des coupes de pages, parce que certains disent on peut réduire le livre, on peut...
Alors, non, il m'a juste demandé quelques ajustements pour la fin, parce qu'en fait, dans son idée, il valait mieux d'abord faire un bouquin qui n'appelle pas de suite.
Ah,
c'était plus facile à vendre ça pour un premier roman. Mais moi, j'avais envie du tome 2. Donc finalement, on a discuté, on a laissé la fin telle qu'elle était. Et il y a un tome 2 qui est en écriture.
Ah bah voilà, j'allais dire, est-ce qu'il y a une suite ? Eh ben il y aura un tome 2. Il coûte combien le livre ?
Ah, il coûte 20 euros.
20 euros, donc si vous voulez l'acheter, vous y allez. On peut le trouver comment ? Alors, pas dans toutes les librairies,
alors,
je suppose.
Non, on peut le trouver.
La Fnac, par exemple ?
Alors tu peux le trouver, ouais. Le plus simple, c'est d'aller sur Amazon.
Oui.
Amazon, il suffit juste d'écrire le titre du roman. La Dame Noire, c'est le premier qui sort. Il y a un site dédié au livre aussi qui s'appelle ladamenoire.net, www.ladamenoire.net, où là aussi il est possible de le commander évidemment, ou sinon directement chez l'éditeur, sur le site de l'éditeur Rivière Blanche.
Ouais. Et il est prévu des dédicaces ?
Alors c'est en train de s'organiser
chez des libraires, des grandes surfaces, ou pourquoi pas des salons du livre ?
On en a encore tout au début, là, l'idée, c'était de voir déjà, moi, comment je pouvais, avec mon petit réseau à moi, communiquer en plus de l'éditeur et atteindre déjà un certain nombre de ventes avant de pouvoir commencer à la phase suivante. Et là, on y est, puisqu'on vient de... C'était mon objectif. Mmh. On vient de dépasser les 100 romans vendus.
Ah bah c'est très bien.
Bonne augure.
Ouais. Voilà. Alors, justement, je sais bien que tu n'as pas fait ça pour ça. Tu gagnes combien sur un livre ? 2 euros, 3 euros, alors, 5 euros ?
Oui, c'est en gros à peu près ça. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, pour être transparent, non, je ne l'ai pas fait pour ça.
Oui, je suis bien.
Mais ça fait quand même plaisir.
Bien sûr.
Quand les gens l'achètent, bien sûr.
C'est plus le fait que les gens l'achètent que de gagner 5 euros sur le livre.
Oui, ça me fait plaisir que des fois, des gens m'envoient un message, ils m'envoient la photo avec le livre, ou ils m'envoient la capture d'écran de la commande qu'ils viennent de faire. Pour me dire qu'ils soutiennent, pour me dire qu'ils ont envie de voir ce que c'est. Et puis encore plus quand, là, il y a une dizaine de commentaires déjà sur Amazon, de personnes qui l'ont lu. Mmh. Des retours qui, pour l'instant, sont très, très positifs. Donc ça aussi, évidemment, ça fait plaisir.
Eh bien, c'est très bien. Hein. Donc, Benoît, je veux que tu ailles acheter le bouquin et que tu m'en reparles le mois prochain.
Hein. Ça marche.
Voilà, c'est ton livre de jouet. Bon, pour finir, j'avais promis de lâcher Mathieu à 25. L'actu MMA, depuis 15 jours, c'est quoi ?
Carrément, on est avec Souleymane, du coup.
Bonsoir, Souleymane.
Bonsoir, excusez-moi pour le retard.
On a une belle actu, ces derniers temps, notamment UFC 307. Qu'est-ce que tu en as pensé, Souleymane ? Dis-nous en tout.
Un match volé,
okay.
Un main event monstrueux, un co-main event à moitié volé également, mais une carte qui ne sera pas oubliée demain en tout cas.
Clairement, on a eu un très beau combat. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, le main event c'était Alex Pereira contre Khalil Rountree, qui s'est conclu par une victoire d'Alex Pereira au quatrième round par clairement un arrêt de l'arbitre en fait. Donc ça a été un beau combat, un combat assez intensif. J'ai envie d'avoir un peu l'avis de Mathieu Nicor sur le combat, parce que pour moi, ça a été une masterclass.
Alors en fait, pour donner mon avis complet, j'attendrai de voir le combat en entier, parce que j'ai vu que des extraits.
Ah, les highlights, bon, ok.
Il est très occupé, il y a la promo du bouquin.
Je m'attendais à une victoire de Pereira.
Ok.
Avec un crochet gauche.
Ouais, je pense comme tout le monde.
Voilà. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite maintenant pour Pereira.
Clairement.
Est-ce qu'il y a encore des gens dans la catégorie ? Est-ce qu'il va changer de caté ? Voilà, parce qu'il a un style qui réussit à imposer à tous. Moi, j'adore le personnage aussi. Hein. Et maintenant, tu vois, je voyais des spécialistes qui se posaient la question qui pourrait lui poser problème. Les gens disaient peut-être un gros lutteur.
Il y en a qui disent que Ankalaev serait capable de le faire en fait.
Voilà. Bah, ça serait c'est ce qui me plaît le plus dans le MMA, c'est les confrontations de style en fait. Donc, ça serait vraiment intéressant.
Après, il faut faire attention parce qu'on sait que Pereira a un bon style, une bonne lutte, pardon.
Oui, notamment défensive. Ouais, donc, en fait, il faut voir. Mais en tout cas, ce serait intéressant de voir des oppositions de stratégie et contre un hyper spécialiste qui chercherait à l'amener là où, en théorie,
il est pas bon.
Il est le moins dangereux.
Mmh. C'est clair.
Alors moi, j'ai juste une question hors UFC. On y reviendra juste après.
Bien sûr.
Du coup, je suis l'actualité forcément de certains de tes combattants. Et j'aimerais que tu nous parles brièvement du défi qui va attendre Bourama d'ici quelques temps. Sur un événement au K1, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, je ne vais pas en parler maintenant parce que rien n'est abouti.
Rien n'est abouti.
Mais il était question que Bourama combatte en pied-point. Ça lui faisait un petit break pour le MMA. Et en fait, Bourama est un combattant qui est très complet, mais qui est aussi encore jeune, qui a peut-être été propulsé vite aussi. Et je pense qu'il il a besoin de se... on en avait parlé avec lui, que peut-être se perfectionner dans chaque domaine. C'est maintenant qu'il avait le moule complet du MMA, c'était peut-être la stratégie à suivre pour lui. Il a un physique longiligne, notamment, qui n'est pas habituel. Il a une grosse force de frappe. Et paradoxalement, c'est plus au sol qu'il est le plus dangereux.
C'est ce qu'on a constaté.
Et s'il arrivait... à utiliser son gabarit et à devenir aussi dangereux de au sol, je pense que ça le ferait passer carrément à un autre niveau encore. Et c'est un petit peu là l'objectif pendant un moment, peut-être, de travailler sur la partie pied-point.
C'est pas le seul combattant que tu as également qui va bientôt se battre. Il y a, si je dis pas de bêtises, il y a Nicolas et Bivol.
Il y a Nicolas et Bivol.
Lui au KSW.
Et pas n'importe quel KSW, le KSW 100, leur plus gros événement.
Ok.
Donc ça, c'est une chouette opportunité aussi. Ça va être un très bon test pour Nicolas Bivol. Il est sur un record de, je crois, 4 victoires, une défaite.
C'est ça.
Il prend quelqu'un qui a battu un Français récemment, qui a battu Hugo 2.
Okay.
Alors, il faut savoir pour la petite histoire que Nicolas Bivol devait affronter Hugo 2, mais qu'Hugo 2 s'est pointé à la pesée avec 3 kilos de trop en nous disant qu'il ne descendrait plus.
Il devait le combattre en short notice, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, c'était même pas un short notice à ce moment-là. C'était prévu de longue haleine. Et en fait, Hugo 2 est arrivé avec 3 kilos de trop à la pesée. C'est quelqu'un qui fait des gros cuttings en plus.
Mm-hmm.
Donc je me suis dit, mais là, il va faire 10 kilos de plus que Nicolas. Quoi. Donc non, il faut qu'il respecte la règle. Donc on a dit, s'il a 1 kilo de trop, s'il arrive à perdre encore 2, on accepte. Mais on n'acceptera pas avec 3 kilos de trop. Ils nous ont dit que là, il n'y arriverait pas. Donc ils ont dit non. Et finalement, on était un petit peu frustrés parce que l'organisation a finalement trouvé un remplaçant plus lourd pour Hugo 2, pas pour Nicolas, alors que c'était Nicolas qui avait fait le taf, quoi.
Clairement.
Et donc cet adversaire a finalement battu Hugo 2, et c'est cet adversaire que Nicolas va rencontrer, mais cette fois-ci au poids, on l'espère.
Ok. Voilà.
Très bien. Eh ben merci en tout cas, Mathieu. Je sais que tu as un anniversaire à fêter, la sortie d'un livre aussi. Voilà. Dernier petit mot, je m'en voudrais de ne pas te poser la question. Tu as vécu les Jeux? Comment tu les as vécus?
Alors, je les ai vécus de loin, sauf pour la lutte que j'ai fait voir.
Oui,
allé
sur la lutte. Ouais.
Ça, c'était très, très chouette. J'ai assisté aux demi-finales de Gréco. C'était une très belle expérience. On pouvait sentir toute l'énergie. Ce qui était assez chouette, c'est de voir que la plupart des gens qui observaient et qui étaient enthousiastes avaient probablement jamais fait de lutte de leur vie et pour certains, jamais un sport de combat. Mais il y avait un enthousiasme qui était palpable. Donc ça, c'était
l'ambiance des Jeux olympiques et paralympiques dans Paris, complètement fou. Hein.
Et puis les résultats de la France aussi qui vont avec. C'était vraiment des très beaux Jeux. Ouais.
Ouais. Très bien, merci en tout cas, belle soirée. Voilà, cette fois-ci, Léonard va pouvoir envoyer la musique. C'est lui qui a concocté le programme. Et ensuite, on va parler trampoline avec la section de Courbevoie.
Le droit des femmes. Depuis qu'avec l'homme sur terre le fut mise, la femme pour des millénaires fut soumise. Cette tradition était clairement transmise. Elle obéissait à ses pères et à l'Église. Le droit des femmes n'est plus, je le proclame. Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Bien les choses ont évolué depuis que Rome voulait les culpabiliser pour une pomme. Les femmes se sont libérées, il faut voir comme. Il faudra nous y habituer, nous les bons hommes. Le droit des femmes n'est plus,
je le proclame.
Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Souvent nos mères ont vécu l'insupportable, subissant bafoués et cocus l'inacceptable. Messieurs, ce temps est révolu, alors que diable. Les
les jeux sont faits, rien ne va plus. Carte sur table, le droit des femmes.
Le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus. Je le proclame,
je le proclame.
Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont tu. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Femme poupée, femme au foyer, femme convexe, toutes ces femmes libérées de leur complexe parlent de choix, parlent d'idées comme de sexe. Alors messieurs, ayons fair play, le bon réflexe. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus.
Je le proclame,
ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Ce mari, cet ancien macho, peut sans problème, sans rougir, pousser un landau sur les lieux mêmes où tous ses copains font le beau devant un crème. On a l'étoffe d'un héros dès que l'on aime. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus.
Je le proclame,
ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Aujourd'hui le monde a changé, tout passe et casse, la femme dans la société a pris sa place, pilote, écrivain, PDG et puis j'en passe, comme finir à l'Élysée un jour de grâce. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus.
Je le proclame,
ce que jadis il fut, ces dames se sont battues et ont tu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Échange de bons procédés, l'homme peut faire quelques-uns des petits métiers des ménagères. On peut le voir marcher sur les grandes artères, fardé, peu vêtu, racoler ses congénères. Le droit des femmes,
le droit des femmes
n'est plus.
Je le proclame,
ce que jadis il fut,
ces dames
se sont battues mais ont eu
le droit des femmes
et ne le lâcheront plus.
Le droit des femmes
et ne le lâcheront plus.
Voilà, cette émission, vous la retrouverez naturellement comme toutes les précédentes émissions en podcast et ce, très, très, très rapidement. Elle sera aussi rediffusée demain. Alors, naturellement, on retrouvera notre ami Stéphane Desenclos pour le point foot hein, tout à l'heure vers 20h10, 20h15. Et vous nous restez fidèles parce qu'ensuite, Alexandre, on va vous faire vivre Belgique-France à partir de 20h45 avec un petit débrief.
Hein. Exactement, avec Eladj. Voilà. À 23h après le match, on refera le match.
Oui, enfin 22h30 le match. 22h30, hein. Il se termine jusqu'à 23h. Donc on fera un petit peu le match de ce match Belgique-France. Et puis avec Stéphane, on parlera donc de la large victoire de l'équipe de France face à l'Israël. 4-1. Donc on va parler maintenant de trampoline. Bonsoir Joël.
Bonsoir.
Oui. Alors, le trampoline sur Courbevoie, dites-moi un peu, c'est un sport important ?
Alors oui.
Est-ce que c'est un des sports phares, j'allais dire, sur les Hauts-de-Seine ?
Alors, pas sur les Hauts-de-Seine, notamment à Courbevoie, le club, ça fait une vingtaine d'années qu'il existe maintenant. Mmh. Et au fur et à mesure du temps, il a évolué. Et depuis 6-7 ans, il commence à prendre de l'ampleur sur la ville. Et voilà, aujourd'hui, je suis avec Mathilde et Jolane.
Bon, on va parler un petit peu de leur motivation, de leur quotidien. Mais vous, comment vous en êtes arrivé à cette discipline, qui est une véritable discipline à part entière maintenant hein. C'est plus sous l'égide de la Fédération française de gym.
Alors en fait, oui, donc moi j'ai commencé le trampoline quand j'étais toute petite. Donc c'est en passant par la montagne, j'ai découvert cette activité qui est très ludique et qui plaît beaucoup aux enfants. Donc à l'âge de 7 ans, j'ai commencé donc le trampoline. Et j'ai été sportive de haut niveau dans cette discipline pendant plusieurs années.
Ah, oui. D'accord.
J'ai pu participer à plusieurs championnats du monde, championnats d'Europe. J'ai participé aux Jeux européens qui ont eu lieu à Bakou en 2015, donc les
premiers
Jeux européens.
Vous avez été à deux doigts des Jeux olympiques. Alors, on parlait des Jeux avec Mathieu tout à l'heure. Vous en avez été à deux doigts?
Oui, à deux doigts.
Ah ouais,
mais c'est vrai qu'on est une discipline très, très petite. Et du coup, il n'y a qu'un représentant par discipline. Donc, du coup, voilà, c'est très compliqué de sélectionner. Il faut aussi sélectionner le pays d'abord avant de participer. Et après, il y a une représentante ou un représentant ou les deux. On arrive aujourd'hui à avoir une fille et un garçon qui étaient notamment cette année, en 2024, au JO de Paris. Mm-hmm. Léa Labrousse et Pierre Gouzeau. Voilà.
Alors, Vanessa, justement, il y avait eu des démonstrations de trampoline pour la journée olympique. C'était en juin 2022 au Stade de France. Hein.
C'est ça, ouais. Avec un grand trampoline installé où tout le monde pouvait venir pratiquer. Et ben moi, j'avais testé. Il y avait beaucoup d'enfants devant moi d'abord. Je les avais laissés passer. Mais j'en avais fait et j'aime beaucoup cette sensation de sauter. Aussi parce que j'aime bien les sauts en général. Donc voilà. Mmh. Et cette sensation de s'élever dans l'air ici.
Alors, ce qui manque au trampoline français, c'est d'avoir une médaille, c'est sûr. Pour avoir, j'allais dire, une plus grande reconnaissance médiatique de votre sport.
Oui, c'est vrai qu'on espère la médaille. Après, on est très fiers qu'il y ait des représentants français depuis les années 2000. Et au fur et à mesure, la discipline évolue. Et même au sein de la Fédération française de gymnastique à laquelle on est rattaché, on a un peu plus d'ampleur. Cette année, les Français ont fait champion d'Europe et elles ont été championnes d'Europe. Elles ont été vice-championnes du monde et ils ont été champions du monde. Mmh. Donc c'est vrai qu'après, en épreuve individuelle, on n'est pas encore sur les podiums mondiaux. Mais on est en Europe, donc on y travaille pour qu'au fur et à mesure, on atteigne le podium.
Au témoin d'un doute, vous êtes sous l'égide toujours de la Fédération française de gymnastique.
Oui, exactement.
C'est pas une fédération
Non, alors on
autonome.
Était, avant les années 2000, bien. On était une fédération à part, qui était la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques. Oui. Et dans les années 2000, on est passé à la Fédération française de gymnastique pour justement pouvoir participer aux JO. Et donc, grâce à ça, on a aujourd'hui notre discipline qui est olympique.
Oui, c'est vrai que vous êtes, je crois, sport olympique depuis 2000. Hein,
depuis exactement,
Sydney,
depuis Sydney, c'est ça.
Ouais.
Et donc, on a eu un représentant à chaque JO, donc depuis 2000. Et ça fait le troisième Olympiade où on a une fille aussi qui participe.
Mmh. Et vous, quelles Olympiades vous auriez pu faire?
Londres aurait été...
2012.
Mais bon, j'y ai participé en tant que supportrice. Londres, j'ai fait Rio... Tokyo, malheureusement, on n'a pas pu y aller, mais Paris, là, c'était quand même assez exceptionnel de pouvoir vivre
tout ça. Alors, justement, avec vous, il y a Joël et puis... Jolane. Bonsoir, Mathilde.
Bonsoir.
Joël, c'est la coach, hein, c'est ça la présente. Oui. Mathilde, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'a plu au trampoline? Pourquoi le trampoline?
Comme tout enfant, c'est quand on voit du trampoline, on voit ça comme un sport très très ludique.
Comme les petits enfants là, tu sautes.
Oui, c'est ça.
Au départ, dans les jardins, tout ça pour jouer.
Exactement.
Ouais.
Sauf que là, en l'occurrence, fallait apprendre à faire des figures et de plus en plus compliquées, et après les enchaîner et de plus en plus haut. Et c'est toute cette combinaison qui m'a plu et qui m'a fait rester.
Mais au départ, il faut faire quand même une base de gym, non? Il faut le gymnase au départ, non?
Pas spécialement.
Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de passer par la gym pour.
Non, en fait, il faut déjà avoir du cran et puis s'amuser à rebondir longtemps. Après, c'est tout un apprentissage de figure.
Oui, mais ça, c'est des mouvements de gym quand même qu'on est obligé de faire, de maîtriser, si on veut rebondir.
C'est très acrobatique. On n'a pas trop de souplesse, on n'a pas trop de besoin d'être très musclé ou des choses comme ça.
Oui.
C'est plus au niveau aérien, il faut du dépassement de soi. Et ne pas avoir peur, parce que les acrobaties, au fur et à mesure, elles augmentent. Et voilà, c'est très acrobatique. C'est vrai que ça se rapproche, par exemple, de la gym au sol, où il y a des figures, ou la barre fixe, où c'est vrai qu'on voit pas mal de figures acrobatiques. Voilà, tout ça, nous, c'est ce qu'on fait aussi, mais enchaîner plusieurs fois sur...
D'accord.
Et peut-être du tumbling aussi, un petit peu.
Oui, exactement. Donc, on parlait tout à l'heure, je parlais de la Fédération française de trampoline sport acrobatique. Il y avait donc le tumbling, qui est une longue piste... où on fait plusieurs saltos enchaînés. Et à la gymnastique acrobatique aussi, où il y a des portées humaines qu'on peut voir aussi en compétition, je ne sais pas, du monde, je ne sais pas, d'Europe.
Et c'est un sport qu'a pratiqué Surya Bonaly avant de faire du patinage artistique.
Oui, alors, justement, on en parlait hors antenne, hein, parce que dans une autre vie, dans d'autres émissions, j'ai eu la chance d'interviewer une championne de ski accro et une plongeuse, carrément, et elles avaient en commun en point commun de pratiquer le plongeon pour leur préparation.
Oui, enfin, c'est ça. Il y a plusieurs disciplines.
Le trampoline pour leur préparation et de plongeon et de ski acrobatique.
Oui, il y a plusieurs disciplines qui utilisent le trampoline. Donc, comme vous le disiez, le plongeon qui utilise le trampoline pour s'entraîner à faire les acrobaties et le ski acrobatique et le patinage artistique aussi.
Oui, donc d'où le patinage. Et alors, chose plus surprenante, ça fera plaisir aussi à Alexandre, pour les gardiens de foot.
Oui, pour les gardiens de foot. Ouais. C'est vrai qu'ils utilisent aussi ce sport pour pouvoir faire les rattrapes arrêts, de ballon, les arrêts. Voilà. Et il y a Philippe Candeloro aussi qui s'est entraîné au trampoline justement pour apprendre des sauts acrobatiques.
Tu vois. Voilà. Ouais. Okay, ouais. Donc, Mathilde, à quel âge donc, tu commences le trampoline?
Moi, j'ai commencé à 7 ans.
D'accord.
Donc, ça fait aujourd'hui 15 ans que j'en fais.
Donc, tu es rentrée à l'INSEP?
Non, moi je ne suis pas à l'INSEP.
Ah bon, tu n'es pas à l'INSEP?
J'aurais bien aimé, mais.
Oui, d'accord, non. Ok. Hein, je pensais qu'il n'y a que. D'accord.
Oui, Jolan est en train de.
Donc c'est qu'une personne qui était à l'INSEP.
Alors il faut savoir en fait que l'INSEP, ça fait seulement 4 ans qu'ils accueillent du trampoline, parce qu'avant, il y avait le pôle espoir de Bois-Colombes, qui a malheureusement fermé. Et donc, par contre, on a eu une ouverture d'un pôle France à l'INSEP.
Oui.
Qui accueille aujourd'hui les meilleurs sportifs, les meilleurs trampolinistes français. Et pour y entrer, c'est très dur. Et du coup, on est assez fiers aujourd'hui que Jolan ait pu y rentrer parce que c'est le premier jeune qui rentre à l'INSEP.
Mais pas Mathilde alors.
Et Mathilde, disons que l'INSEP n'était pas encore ouvert à cette époque-là. Mmh. Et elle a fait partie des jeunes en junior qui avaient un potentiel. Et après, il faut aussi. Elle avait un double projet aussi entre le sport et les études. C'est vrai que dans ces disciplines-là, c'est assez compliqué de faire les deux.
C'est obligatoire quand on va à l'INSEP, il faut être bon en sport et puis il faut être bon.
Oui, alors pour rentrer dans les structures,
c'est partout pareil.
Pour rentrer dans les structures, c'est sûr.
Tant mieux.
Il y a une structure à Antibes et à Rennes aussi. Oui. Et voilà, le double projet est important. Il faut que les études suivent et bien sûr pour que après le sport puisse se faire correctement.
Alors, si Mathilde n'y est pas entrée, toi, Jolan, d'abord, à quel âge tu as commencé ce sport?
Moi, j'ai commencé à 9 ans.
9 ans, ouais. Oui. Et pourquoi?
Pourquoi? Complètement par hasard.
Ouais, par hasard.
Ouais, j'ai trouvé ce sport sur le journal de la ville avec ma mère. Et ça m'avait intéressé. Du coup, on allait faire des tests.
D'accord.
Et après plusieurs semaines, du coup, Joël. Elle m'a demandé de venir faire des petits tests au club qui était raffiné à la ville. Et après ça, de fil en aiguille, je suis arrivé ici.
C'est bien. Et quand tu as dit ça aux copains, ils t'ont pas dit non, vaut mieux que tu joues au foot, au basket?
En fait, je faisais aussi du foot.
Eh oui, bah oui.
Et à un moment, il a fallu faire un choix. Et donc, voilà.
D'accord. Et donc, comment tu rentres à l'INSEP? Bon, je suppose que c'est un choix qui est un choix personnel, quoi.
Oui. Du coup, je suis rentré en septembre. Délibéré. Je suis rentré en septembre. Et du coup, là, je fais ma scolarité là-bas, je suis interne là-bas.
Oui. Tu peux nous parler un peu de ton quotidien? Tu t'entraînes d'abord. Alors, la journée commence à quelle heure?
Ma journée commence à 7h15, je me lève à 7h15.
Bon encore. Ouais.
Donc je me prépare, je vais manger. Et j'ai cours à 8h.
D'accord.
Jusqu'à 10h40. Ensuite, je vais à l'entraînement jusqu'à midi 30. Ensuite, je vais manger. Je reprends les cours à 14h30. Jusqu'à 15h20, où après je repars à l'entraînement. Et des fois, le lundi et mardi, j'ai études le soir. Ouais.
D'accord. Donc l'entraînement, ça dure jusqu'à quelle heure? 17h
17h30. 17h30.
Ouais. Mais après, il y a les devoirs.
Il y a les devoirs que je peux faire entre l'entraînement et les études, ou aussi à l'étude. Et voilà.
Ouais. Ça fait des belles journées quand même.
Ça fait des grosses journées. Après, c'est vrai que c'est une structure qui est quand même très bien adaptée pour. Pour pouvoir concilier les études et le sport.
Ouais,
Jolan, jusqu'à présent, comme l'était Mathilde aussi, ils ont fait leur primaire et leur collège, et Mathilde le lycée, dans des écoles tout à fait normales.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est vrai que pour concilier les deux, c'est très compliqué et ça fait des journées de 8h à 21h pour des sportifs, c'est très long.
Et tu rentres chez toi de temps en temps, non?
En ce moment, je rentre une semaine sur deux.
Une semaine sur deux, quand même, oui. D'accord. Et il y a des moments où par moment...
C'est vrai que des fois, c'est un petit peu compliqué
de
rester attentif en cours. Mais après, je peux m'estimer chanceux parce qu'on n'a pas beaucoup de cours par rapport aux élèves lambda.
Ouais. Tu fais quoi comme études? T'es à quel niveau là?
Là, je suis en seconde.
Oui, d'accord. Okay. Donc l'objectif, c'est le bac, après tu verras.
Ouais.
Ouais. Exactement. Mm-hmm. Et toi, Mathilde, alors, comment ça se passe, toi qui n'es pas à l'INSEP?
Bah, moi, ça se passe très bien quand même. Là, je suis actuellement... je viens de finir mon Master 1.
Ah,
oui, je suis un peu plus âgée que Violaine.
Dans quelle branche?
Là, en école commerce. Hein? Mais avant, j'ai fait une licence de droit. Et c'est surtout pendant cette période-là que j'ai dû apprendre à bien concilier les entraînements et les études, ce qui n'était pas toujours facile quand on finissait tard les cours.
Surtout en droit.
Surtout en droit. Mais j'ai réussi à aménager un peu tout ça, surtout avec l'aide de Joël. Donc j'ai réussi à m'en sortir et là c'est un peu plus cool. Donc ça va, j'arrive à gérer tout ça.
Et toi aussi, t'as pas un moment de découragement? Bah, tout le monde en a, hein, c'est normal.
Oui, comme
dans tout l'espoir. Et ceux qui arrivent à vaincre ça, bah, c'est là qu'ils s'en sortent.
Oui, c'est ça. Non, mais faut pas lâcher. Il y a toujours des périodes de haut et de bas, mais c'est comme dans tous les entraînements. Après, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais il faut pas lâcher quand c'est quelque chose qu'on aime et qu'on veut faire à fond. Ouais.
Donc toi, tu t'es donné une échéance à ta carrière, non? Tant que tu auras le plaisir, tu continueras.
Bah, actuellement, c'est ça.
Oui.
Parce que
l'année dernière. C'est la notion sine qua non. Hein.
Oui, enfin, c'est ça.
Ouais.
Non, parce que l'année dernière, je n'étais pas sur Paris. Du coup, j'étais pas dans mon club. Mais j'ai quand même réussi à continuer dans un autre club. Mais du coup, pas en individuel pour notamment d'autres raisons. Mais cette année, j'ai réussi à reprendre justement. Dans mon club, et c'est pour ça que là je me laisse un peu aller, on verra jusqu'où je vais.
Quels sont tes principaux titres, ta principale victoire ou tes principales belles performances?
J'ai été plusieurs fois championne de France en individuel et par équipe dans ma catégorie.
Et toi, Jolan?
Moi, très récemment, j'ai fait vice-championne d'Europe par équipe. J'ai fait aussi 4e au championnat du monde junior en individuel et 7e au championnat du monde.
D'accord. Et l'INSEP, ça se passe comment entre vous? Vous êtes copains? On arrive quand même, malgré le fait qu'on travaille beaucoup, on arrive à avoir des copains, même y compris des autres disciplines?
Oui, exactement. Bah, par exemple, dans ma classe, on est mélangés.
Oui.
Par exemple, avec des basketteurs,
des plongeurs. Ça, c'est bien.
Ouais, donc, en fait, l'ambiance, elle est un peu diversifiée par sport.
Bon, il n'y a pas trop de chahut des fois?
Non, ça va.
C'est normal, hein, ça fait partie du... Ça en fait partie, hein. Bon, toi, tes ambitions, c'est quoi? Les jeux?
Bah, moi, c'est les jeux.
Ouais. Los Angeles, Brisbane?
Ouais, Los Angeles.
Ouais, 2028.
Ouais.
Ouais. Bon. Joël? Donc,
oui, ben. Bah...
Quand vous les retrouvez dans les clubs, je suppose que vous, ancienne championne de haut niveau, vous avez les mots pour les encourager, pour les accompagner?
Oui, bah c'est vrai qu'on essaie d'être au quotidien à leur côté et on sait la difficulté que c'est de tout concilier. Après, voilà, au club de Courbevoie, on essaie d'accompagner les jeunes jusqu'à leur objectif et là où ils ont envie d'aller aussi. Et on est très fiers de chacun d'eux, de ce qu'ils arrivent à faire. Bien sûr. Parce que c'est vrai que voilà, quand on est juste déjà enfant, c'est déjà dur de concilier l'école, les devoirs.
Vous êtes quoi? Vous êtes la présidente, la coach, la maman, la confidente, quoi, non?
Oui, bah, on est un peu tout. C'est vrai qu'on voit, quand on a des athlètes comme ça qui s'entraînent au quotidien, c'est du lundi au vendredi, on les a sur toute leur soirée pour qu'ils puissent atteindre leur objectif, leur meilleur niveau. Et donc, du coup, on les voit très, très souvent. On part en compétition ensemble, les week-ends, les stages. Donc, c'est vrai qu'on les connaît bien. Et puis, quand ils arrivent à terme à faire ce qu'ils ont envie et qu'ils ont atteint leur objectif, on est très fiers de ça.
Ah oui.
Que ce soit à n'importe quel niveau, parce que quand on commence, on ne sait pas dans quoi on se lance, on ne sait pas à quel niveau on aura. Et donc voilà, on essaie de les accompagner au mieux.
Imaginez Jolan à Los Angeles ou au Brisbane. Je suppose que,
j'espère qu'il me paiera le billet.
Une personne, je suppose que vous serez une personne... heureuse, quoi. C'est une récompense quelque part.
Oui, bah bien sûr, bah c'est vrai que les JO, enfin voilà, c'est vrai que c'est la compétition en tant que sportif de haut niveau qu'on a tous envie de faire, donc bien sûr que ça sera une grosse fierté, ce sera une fierté pour le club, pour la ville et pour tous les partenaires et le soutien qu'on a
Alors, on va rappeler quand même un peu pour le grand public, un petit peu les règles de ce sport, parce que c'est un sport individuel, mais qu'on peut faire à deux. Hein.
C'est un sport individuel, exactement, c'est en synchro. Ouais. En fait, chacun sur un trampoline. Ouais. Donc, en fait, le trampoline, c'est une toile de nylon.
8 mètres, je crois, non ?
Alors, c'est 4 mètres sur 2.
Oui. Et on peut aller 8 mètres de hauteur, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est attaché à des ressorts. Et voilà, les filles vont entre 7 et 8 mètres et les garçons peuvent aller à 9 mètres. Et voilà, le principe, c'est de réaliser 10 figures enchaînées avec le plus de salto et de vrille. Et voilà, donc on est noté sur l'exécution, sur la difficulté, donc l'enchaînement des vrilles et des saltos. Et sur cette toile, on a en fait un quadrillage comme une cible, en fait, où au milieu, on a une croix et il faut essayer de rester le plus possible sur cette croix-là. Mmh. Et ensuite, on a aussi le temps de vol qui est compté. Donc, c'est le temps passé dans les airs sur l'enchaînement.
Donc, la note, c'est un mix de tout ça, quoi, des trois...
Voilà, exactement. Ouais. On a une note sur chaque critère. Et donc, on peut le faire en individuel, en épreuve synchronisée, donc à deux, chacun sur un trampo, et en équipe.
Et en équipe, c'est mix ou c'est...
C'est filles et garçons. C'est quatre personnes dans chaque équipe. Mmh. Et voilà, peut-être qu'un jour ça sera mixte, pourquoi pas.
Et on peut faire deux carrières en même temps, solo et duo, c'est
possible. Exactement, on peut faire les trois, en individuel, c'est un pro équipe.
Un petit peu comme pour le patinage ou la gym, est-ce que parfois il y a des contestations au niveau du trampoline? Est-ce que parfois il y a des jugements, des interprétations un petit peu différentes? Je vous vois un petit peu sourire.
On essaye d'améliorer tout ce qui est jugement. Il faut savoir que, par exemple, pour les déplacements et pour le temps de vol, c'est une machine qui gère tout ça. Exactement. Et pour la difficulté, en fait, c'est chaque quart de salto et demi-vrille est comptabilisé par des dixièmes. Donc,
il n'y a pas de jugement humain qui peut parfois,
et après, c'est...
un peu comme au patinage ou à la gym, prêter contestation. Quoi.
Et voilà, après, il y a l'exécution, mais l'exécution, on a des critères de notation qui sont posés sur papier. Et donc, en fait, la position du corps, le maintien... les bras, tout ça, c'est codifié, en fait.
Et je me demandais, est-ce qu'il y a... parce que, du coup, il n'y a pas forcément cet aspect un peu plus, entre guillemets, esthétique, artistique qu'il y a dans d'autres disciplines. Donc, c'est aussi, je pense, ça qui explique qu'il y ait moins de problèmes de jugement, tout ça. Mais je pense pas qu'il y a moins de contestations, hein, comme vous l'avez dit. Et je me demandais, quels sont les leaders au niveau mondial dans cette discipline?
Alors, donc chez les filles, on a une Anglaise qui est très, très, très forte, qui a été championne du monde, championne d'Europe et championne olympique cette année. Et puis, bien sûr, on a les Chinoises les Russes et les Biélorusses. Et chez les garçons, c'est la Chine, Russe et Biélorusse aussi. Mais bon, sans oublier nos Français aussi qui ont été très, très forts.
Pas d'Américaines, non, pas trop. Finalement,
mais pas dans le haut du tableau.
Oui, c'est ça. Mmh.
Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de moyens, ces pays-là.
Alors, en Chine, il faut savoir qu'en Chine, c'est complètement autre chose.
Hein. Athlètes,
ouais, exactement. Ouais, déjà, il y a beaucoup...
athlètes volontaires,
c'est ça. Et puis, en fait, eux, ils commencent très, très jeunes. Ils sont dans les gymnases toute la journée. Tout est fait pour que... C'est des INSEP, mais dès tout jeune. Donc, la progression est très, très rapide. Après, dans les autres pays, c'est vrai que notamment pour les Anglais, ils ont aussi eu cette effervescence après les Jeux, où il y a sûrement des moyens qui ont été mis en œuvre. Et on espère que nous aussi, avec ce qui s'est passé cet été, ça puisse aussi aller dans ce sens-là.
Alors, est-ce que c'est un sport qui est dangereux? Est-ce qu'on s'y blesse beaucoup?
Alors, dangereux, je dirais non, il n'est pas dangereux. Par contre, faut bien apprendre les figures, faut être vigilant à ce qu'on fait. Faut savoir que nous, on apprend des choses avec des entraîneurs qui sont diplômés. Et la méthode d'apprentissage au trampoline, c'est une méthode qui consiste à apprendre les figures au fur et à mesure. Donc, on ajoute les quarts de salto et les demi-vrilles au fur et à mesure. Donc, on commence très, très bas. On a plein d'éducatifs, c'est-à-dire des éléments constructifs qu'on ajoute au fur et à mesure. Et voilà, en fait, c'est un peu comme l'alphabet. On apprend les lettres et après, on les assemble et on peut former des mots. Au trampoline, c'est ça. La construction acrobatique, c'est exactement la même chose.
Ils ne se sont jamais blessés. Il n'y a jamais eu de blessure très grave, non?
Non, Jolan. Un petit bobo, mais pas de grosses, grosses blessures.
Oui. Ce que vous avez dit, ça m'a fait penser un peu, moi qui ai pratiqué du patinage artistique, à cette notion de, d'évolution comme ça, de plus en plus dur, et après on assemble les choses.
Exactement.
Parce que dans ce qu'on voit à la télé, que ce soit le trampoline, le patinage artistique, on voit un ensemble, tout est lié, tout a l'air facile. Il y a déjà un travail qui est fait pour que ça ait l'air facile, mais c'est aussi, en fait, on apprend petit à petit à lier des choses. La sortie, l'entrée, quand on suspend dans les airs en trampoline ou quand on fait les sauts en patinage artistique. Donc ça m'a vraiment fait penser à ça.
Oui, bah c'est exactement ça. Puis on apprend aussi à tomber, parce que c'est vrai que le trampoline est à 1m20 du sol.
Oui, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est dangereux, chute, quoi, ouais.
Voilà. Bah non, en fait, c'est bien appris, c'est évolutif.
Et toi, Mathilde, jamais eu de grosses blessures?
C'est arrivé une fois, justement, il n'y a pas longtemps. Mais faut savoir qu'on apprend à tomber aussi.
Oui, c'est ça.
Parce
que
voilà, on apprend tout au fur et à mesure, mais aussi on apprend à tomber. Donc c'est ce qui rend tout ça... non dangereux, quoi.
Est-ce que y a un profil type pour faire ce sport? Bon, je suppose qu'ils doivent faire attention à leur poids quand même.
Alors non, nous on parle pas, on parle pas forcément de poids. Après, c'est vrai qu'ils ont beau.
On peut faire 90 kilos, on peut faire du trampoline.
On peut faire du trampoline en loisir. Après, c'est vrai que quand on rentre dans le groupe compétition, c'est souvent quand même des athlètes qui ont une certaine aisance pour le sport, qui sont qui ont une bonne coordination, motricité, donc ça va aussi avec.
Tu fais le régime?
Non, moi je suis encore régime.
Non, pas du tout. Non. Et par exemple, si tu prenais un kilo en plus, ça se verrait dans tes prestations? Non, t'aurais pas?
Non, sur le poids, on n'est pas, on parle pas de ça. Après, c'est sûr qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie.
Oui, bien sûr. Il faut bien dormir, faut bien manger comme tout le monde, quoi. Ouais.
Moi, on a un préparateur physique. À l'INSEP. Qui nous fait des séances. Moi, j'ai séance 3 fois par semaine, le lundi, mardi et mercredi.
Oui, d'accord. Voilà. De trampoline, quoi, c'est
ça? Non, de musculation.
De musculation, de musculation, en plus.
Un peu comme la PPG, finalement, la formation physique générale.
Donc, en principe, entre le trampoline et cette préparation, ça fait combien d'heures par semaine?
Je ne saurais pas dire là de tête.
Une vingtaine d'heures?
Facilement.
Oui, facile. Plus. Bien sûr, en plus. Ouais, mais non, c'est pour dire un petit peu le quotidien qu'on peut faire. Pareil pour toi, Mathilde? Même si tu n'es pas à l'INSEP.
Auparavant, j'étais plus sur une 10-15 heures max.
C'est pour dire quand même. Hein.
Un peu moins.
Après, c'est aussi par rapport aux heures de l'école. Quoi, parce que si on pouvait avoir les enfants, je lance un message, si on pouvait avoir les enfants
vieux, à 14 heures. Vieux débat.
Ça serait plus
simple.
Quels
que soient les ministres.
Ça serait plus simple aussi avec les parents, parce que voilà, c'est vrai que quand les enfants, même jeunes, rentrent à 20h30, 21h, c'est déjà tard. Quoi. Donc après, c'est des enfants qui sont passionnés, qui trouvent aussi des choses très ludiques et passionnantes. Donc,
Alors Joël, justement, votre club, il y a combien de membres? Combien de pratiquants, pratiquantes?
Alors, donc, on a très, très bien commencé la saison parce qu'on commence avec 200 licenciés inscrits au club. C'est la première année où on a autant d'inscriptions.
C'est bien, c'est un effet JO directement?
Peut-être un effet JO. En tout cas, tant mieux. Si c'est un effet JO, on espère que ça va continuer. On essaye au maximum de communiquer sur la discipline. Et voilà, et puis c'est vrai qu'aussi avec l'arrivée des trampolines parcs, et puis maintenant les trampolines de jardin, voilà, on incite aussi les enfants à venir dans des clubs pour apprendre le trampoline, pour apprendre correctement, pour éviter aussi de...
De manière encadrée, pas se blesser. Ouais.
Exactement, parce que c'est très bien les trampolines parcs, mais c'est vrai que quand on connaît un peu la discipline, on peut progresser plus rapidement sans se blesser.
Et les jeunes qui viennent, ils y restent grosso modo dans votre sport, ou alors ils viennent voir ce que c'est, puis après ils vont aller...
Non, c'est vrai que généralement ils restent quand ils arrivent très jeunes. Après, c'est vrai que quand ils arrivent au collège, en 4e, 3e, c'est un peu plus dur de les garder. Mais pour la plupart, restent, ils y trouvent un intérêt. Et puis,
alors, quels sont vos résultats? Vous êtes un des meilleurs clubs. Bon, je sais qu'il y a le club de Levallois, qui est un club, j'allais dire, un petit peu concurrent.
Oui, dans le 92, voilà, il y a Levallois, Bois-Colombes. Oui. Et puis en Ile-de-France, il y a aussi le club de Sevran. Mais c'est vrai que voilà, on fait partie des 4-5 clubs
Les plus importants.
Les plus importants. Et voilà, on essaye en même temps de pouvoir faire du loisir et de la compétition, donc concilier les deux. Et au niveau compétition, on essaye d'avoir des résultats, les meilleurs résultats. Quoi.
Oui, oui. Bon, et dans l'ensemble, c'est bon, vous êtes...
Oui, bah là, on a les championnats de France. On a les championnats de France par équipe qui arrivent justement au mois de décembre. Mm-hmm. Où c'est une compétition, c'est les championnats de France par club. Donc là, on défendra nos couleurs de Courbevoie, qui seront ces championnats de France seront à Levallois d'ailleurs.
Ah bah oui. Si certains, chaque voisin, il y a que le pont à traverser.
On viendra.
Si certains d'entre vous veulent venir voir cette discipline.
Ce sera quoi les dates?
C'est le 14 décembre. D'accord. 13 et 14 décembre à Levallois. Mm-hmm. Voilà, donc on vous invite à venir faire un petit tour.
D'accord. Est-ce que vous avez une salle à part entière? Comment ça se passe?
Alors, on est dans un gymnase où on installe...
partage avec les autres...
Alors, en fait, on installe les trampolines. Donc, on a 7 trampolines à installer. Donc,
c'est lourd, deux fois?
Oui, c'est très lourd. Un trampoline, c'est 300 kilos. Voilà. Donc, on en a 7 à installer. On les installe le mardi et on range ça le samedi. On partage la salle aussi avec les scolaires, où notamment on intervient pour aussi faire l'initiation et la
bien.
Prévention.
Ça, c'est bien. Donc, les scolaires viennent aussi.
Oui, oui,
ça,
oui,
c'est
on
bien.
On
avec les cours
aussi.
De gym, tout ça et tout, c'est bien.
Exactement. Ouais. Et donc, du coup, la mairie quand même nous aide par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'avant, on installait des montées plusieurs fois par semaine.
Je sais que c'est un des problèmes des clubs de trampoline, d'avoir leur salle eux-mêmes ou d'enlever le matériel, de le remettre à chaque fois. Et ça prend du temps et c'est très lourd.
Oui, c'est ça, exactement. Après, voilà, nous, on est une discipline où on n'est qu'un athlète par trampoline, donc c'est vrai que c'est pas très très rentable pour la discipline, mais voilà, ça permet aux enfants de découvrir d'autres sports et de façon très ludique, et d'éviter qu'ils sautent sur leur lit aussi les parents.
Oui. J'ai pas demandé le prix de la licence ou de la cotisation. Si certains et certaines veulent venir vous rejoindre, vous prenez encore, c'est pas...
Oui, oui, bien sûr, on a encore.
Si après l'émission, ils veulent y aller.
On a encore peu de place, mais on en a encore, notamment chez les jeunes. Ouais. Donc c'est 280 € pour les courbevoisiens, et sinon c'est 310 € l'année.
Mmh. Et les créneaux, c'est tous les jours de la semaine?
Du mardi au samedi, en fait, c'est par âge.
Ouais.
Donc c'est une heure par semaine.
Ça va.
Voilà.
Donc vous avez des entraîneurs, des moniteurs diplômés?
Oui, alors on est deux entraîneurs sur l'association. Donc il y a Vincent Minfray qui est ancien trampoliniste de haut niveau aussi, et moi-même. Donc moi je suis plus sur la partie compétition. Et Vincent l'est aussi, mais il entraîne aussi les loisirs. Mmh. Et donc, on est deux entraîneurs sur le club.
Et ça arrive qu'on écoute de la musique en trampoline?
Ah bon, on a la musique tout le temps. Vincent nous fait des bonnes playlists.
Ouais.
Donc du coup, non, c'est très, très ludique. On est là d'abord pour s'amuser et voilà, prendre du plaisir.
Eh bien, c'est bien. Ça sert de transition pour la deuxième pause musicale. Allez, on y va. We'll be right back. Bon, eh ben, ça y est, c'était la deuxième pause musicale. On va maintenant, donc, avant de retrouver notre ami Stéphane pour le point foot, hein, et avant le France-Belgique, le Belgique-France, pardon, qu'on va vous faire vivre à partir de 20h45 sur mon Paris FM, l'abondant journal des sports de Saint-Quentin. Alors, on va commencer probablement avec celui qui aurait été le sportif de l'année si on n'avait pas été donc en année olympique. Hein. C'est Tadej Pogacar qui a tout gagné cette année.
Incroyable, ouais. Philippe, Tadej Pogacar. On commence ce journal des sports justement avec ce Tour de Lombardie en cyclisme et la victoire du Slovène qui écœure Remco Evenepoel en lui mettant 3 minutes dans les roues. Et l'Italien Giulio Ciccone qui accroche la 3e place. Le Slovène qui est aux anges actuellement puisqu'il a enchaîné sa 4e victoire de suite au Tour de Lombardie. Et celle-ci est d'autant plus belle puisque justement il clôture sa magnifique saison en leader du classement. Mm-hmm. Quelle performance de Pogacar qui marque un peu plus l'histoire de son sport, Philippe.
Oui.
Toujours dans le cyclisme, j'en profite pour vous dire que Stéphane Küng s'est adjugé le chrono des Nations 2024 qui se déroulait ce dimanche 13 octobre aux Herbiers. Sur une distance de 44,5 km, le Suisse a été le plus rapide de tous en bouclant son parcours en 51 minutes et 47 secondes.
Ouais, c'était la dernière grande course, ils vont pouvoir partir maintenant au soleil et en vacances les cyclistes après la présentation du Tour de France.
On poursuit ce journal des sports, Philippe, avec comme chaque semaine les résultats du week-end en top 14 et il faut parler de la débâcle du Stade français à Lyon, 35-3. Début de saison catastrophe pour le Stade français qui compte 4 défaites en 6 matchs et qui pointe à la 13e place du classement avec 9 points. Le Racing 92, quant à lui, a remporté son match 22-6 contre le RC Toulon et pointe à la 9e place avec 14 points. Dans le haut du classement, Bordeaux-Bègles est toujours leader avec 23 points, le Stade toulousain 2e avec 20 points et le Stade Rochelais 3e avec 18 points. Le RC Vannes est dernier avec 7 points, juste derrière justement le Stade français. Très compliqué pour le Stade français.
Ouais.
En basket maintenant, et le Paris Basket n'y arrive toujours pas non plus en Euroleague. Ouais. Après sa défaite contre Belgrade il y a 10 jours, cette fois-ci c'est contre Milan que les Parisiens se sont inclinés 79-74. Ils ont pu se consoler en allant gagner à Dijon hier en Betclic Elite, 97-83. Le Paris Basket aussi, début de saison un peu moyen, qui pointe à la 4e place du classement derrière Cholet, Lyon, Villeurbanne et Bourg-en-Bresse. Pour les Nanterrois, c'est toujours compliqué ce début de saison avec une nouvelle défaite ce week-end, cette fois sur le terrain du Mans 94-87. Le club des Hauts-de-Seine est actuellement 13e du classement. Handball maintenant, pas de championnat féminin ce week-end et des résultats compliqués encore pour nos clubs franciliens chez les hommes. Une nouvelle fois, Ivry a perdu sur le terrain de Tremblay 37-33 et le PSG affrontait Créteil justement ce dimanche. Victoire sans trop de difficultés des Parisiens 45-31. Victoire qui les place à la première place du classement avec 12 points devant Toulouse, Nantes et Montpellier 10 points. Créteil et Ivry sont les deux relégables. Toujours aucun point pour Ivry, c'est très compliqué, 0 point. Donc début de saison cataclysmique pardon, ouais, pour nos deux clubs.
C'est vrai qu'on dit chaque semaine, mais c'est pourtant la triste réalité.
Ah,
franchement,
et puis, le Paris Basketball demain rencontrera le Patanenekos à l'Accor Arena.
On ira les voir, ça ira beaucoup mieux. Après, ça va aller mieux quand on va aller les voir.
Alex.
En volleyball maintenant, et décidément, ça ne va pas bien pour nos clubs franciliens encore, puisque le Plessis-Robinson signe sa 3e défaite de la saison en autant de matchs et à chaque fois par le plus gros écart, 3-0, 3-0, 3-0, cette fois c'est contre Tours et pareil pour le Paris Volley qui perd aussi 3-0 contre Montpellier. Les Parisiens sont à la 10e place tandis que les Robinsonnais sont derniers du classement. Chez les femmes, un peu de sourire, heureusement qu'elles sont là parce que Levallois-Paris a gagné son match contre le Canet 3-2. Le club de l'Ouest parisien est deuxième du classement avec 7 points, juste derrière Nantes, 8 points. En golf maintenant, et l'anglais Dan Bradbury qui a résisté à ses poursuivants en remportant l'Open de France ce dimanche à Saint-Quentin en Yvelines. Il obtient à cette occasion sa 2e victoire sur le circuit européen. Les Français Julien Guerrier et Adrien Sadier sont 18e. Un peu de course à pied, Philippe, un record du monde en plus. La Kenyane Ruth Chepngetich avait littéralement des ailes puisqu'elle a bouclé les 42 km du marathon de Chicago en 2h35. Énorme performance.
2h09, hein. 2h09 et 35 secondes.
Oui, 2h09 et 35 secondes, pardon. Énorme performance.
Elle est en dessous la barrière des 2h10.
C'est ça, et donc record du monde. Mmh. Et elle a dédié cette victoire à son compatriote marathonien Kelvin Kiptune, qui a disparu cette année un peu plus tôt. Mmh. Et puis on finit ce journal des sports avec les 20 km de Paris qui se déroulaient hier. Et c'est bien l'Éthiopien Mekonnen Ayimiro Yele qui s'est imposé au sprint devant le Français Jan Schrub. Chez les femmes, l'athlète tricolore Manon Trapp a réalisé le deuxième meilleur chrono de l'histoire de l'épreuve avec ses 1h, 4 minutes et 44 secondes.
Voilà pour cet abondant journal des sports et donc les 20 km de Paris, 15 jours après le Paris-Versailles. Je pense qu'on a retrouvé mon ami Stéphane Desenclos. Est-ce que Stéphane m'entend ?
Bonjour oui, Stéphane.
Ah bah tout va bien, tout marche bien. Tout marche bien, ça y est, c'est réparé. Bonsoir Stéphane. On va ce soir vivre le Belgique-France, à partir de 20h45. Un petit mot sur la nette victoire contre l'Israël, 4-1. Une victoire quand même où l'équipe de France a eu un peu de mal à se mettre à l'abri définitivement.
Ça ne m'a pas surpris. Je pense que ça n'a pas surpris grand monde non plus, si ce n'est que cette équipe israélienne était présentée comme un peu redoutable, avec des bons joueurs avant le match. On s'est aperçu qu'elle était quand même très très faible. Maintenant, je pense toujours qu'il faut quand même être deux pour faire un bon match. Bon, ils ont gagné, on retiendra le score. C'est-à-dire, les matchs qui se jouent en automne comme ça, avec beaucoup d'absents et tout, moi je pense qu'on retient surtout le résultat.
Bien sûr, c'est des attaques défense en plus, Stéphane. Hein.
Ouais, c'était le cas. Voilà, il y a eu un contre ou une erreur, qui fait qu'ils ont égalisé, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis il manque quand même beaucoup de joueurs, hein, beaucoup plus qu'on ne veut le croire, hein, avec quoi qu'on veut le croire, qu'on peut le penser. Hein, après Griezmann qui a arrêté, Mbappé qui est absent, Adrien Rabiot qui n'a pas encore repris, qui n'était pas prêt à jouer, N'Golo Kanté qui était un peu touché, qui n'a pas été retenu, Upamecano qui a fait forfait au dernier moment. Il y a beaucoup Kingsley Coman qui n'a pas été retenu, qui revient doucement dans le coup. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'il faut changer de génération. Il n'y a plus Olivier Giroud, Griezmann en l'occurrence. Sans Mbappé, c'est 144 buts pour l'équipe de France qui était absent.
Eh oui, c'est ça. On a un petit peu tendance à l'oublier. Donc l'Italie qui a concédé nul face à la Belgique de 2, ça veut dire que l'Italie est en tête avec 7 points, devant la France, deuxième 6 points, troisième la Belgique 4 points et quatrième l'Israël 0. Il faut impérativement faire le même type de match ce soir pour la Belgique, celui du match aller qu'on avait assez facilement gagné 2-0.
Oui, moi...
Pour rester dans la même dynamique.
Sur le papier, ça, on va un petit peu voir. Il va falloir certainement quand même mettre un petit peu plus d'ingrédients que contre Israël. Mais l'équipe de Belgique est aussi assez faible. Elle est aussi en pleine restructuration avec des joueurs emblématiques qui sont absents. Hein, Lukaku, son nom m'échappe,
le joueur
de Manchester City, De Bruyne. Oui. De Bruyne qui est aussi absent. Donc, il y a un peu une transition. Il y a peut-être moins de joueurs importants absents que les Bleus. Mais bon, c'est quand même très, très moyen. Donc, on va voir comment cette équipe de France, elle... Encore une fois, moi, je vais retenir surtout le résultat. Quoi.
Absolument. Et puis, on va rappeler que c'est les deux premiers des poules qui sont qualifiés pour des quarts de finale au mois de mars. Hein. On a un petit peu changé la formule. Il faut savoir que pour l'instant, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal et l'Espagne sont en tête de leur groupe. À noter quand même la victoire du Portugal devant la Pologne 3-1 et celle de l'Espagne devant le Danemark 1-0.
Voilà, tout à fait. Une victoire de l'équipe de France, et il n'y aura plus qu'un petit point à prendre pour être sûr de terminer dans les deux premiers sur les deux derniers matchs, puisque c'est le premier match des rencontres retour là qui se joue ce soir. Hein. Oui. Italie, Israël et puis Belgique, France. Donc faudrait une victoire, tu es quasiment assuré de tu vas recevoir Israël. Donc tu pourras penser que tu prendras au moins un point contre Israël. Il n'y a que ce genre de pensée.
Bien qu'en d'autres temps, tu te rappelles, hein, 93, ça ne s'était pas très bien passé.
Penser qu'on va battre Israël ou prendre un point, ça a des tours. Ouais. Mais bon, donc même un résultat nul, finalement, ne serait pas si mauvais. Quoi. Après, tout dépend de comment ça va jouer. L'équipe de France, elle est en transition. Alors tout le monde sait. Tout le monde s'énerve un peu, avec toujours les mêmes médias qui ont pour cible de mettre du buzz là où il n'y en a pas forcément.
Absolument.
Et puis voilà, quoi. Donc on n'attend rien de particulier de ce match.
Alors, avant de passer sur les féminines, un petit mot quand même sur l'effet bombe de cette semaine. Hein. Le Paris FC qui veut se doter et se donner des moyens pour devenir enfin le deuxième club de la capitale.
Ouais, tout à fait. le truc, y a, c'est toujours la même chose, Philippe, sur les effets d'annonce. On a vu ça, bon, on peut pas comparer, mais on a vu ça quand on a annoncé le rachat de Saint-Étienne, et puis après, tout le monde a déchanté, et puis on voit où on sont les verts aujourd'hui. Bon, là, le Paris FC va être acheté effectivement par
des Français.
Je crois que c'est la troisième fortune mondiale, quoi. Donc,
oui, Bernard Arnault. Ça,
voilà, avec un spécialiste du foot, de la formation, le Red Bull qui prend 15%, Ferracci garde 30%, et puis il y a 55% pour la famille Arnault. Mais bon, après, ça, il va falloir du temps. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas non plus, ils n'ont pas intérêt à faire comme le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire à balancer des millions pour avoir les meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas, je pense, leur objectif. Donc, déjà, il faut qu'ils montent en Ligue 1.
Oui.
Et même s'ils vont se renforcer, c'est déjà prévu qu'ils se renforcent au mois de janvier pour assurer. Mais une fois qu'ils seront montés, ils vont mettre petit à petit de l'argent pour effectivement avoir un projet sur... Sur la dizaine d'années qui vient, quoi. Mais ouais. Voilà, maintenant c'est sûr que le temps passe si vite qu'on peut se retrouver dans entre 5 et 10 ans avec des matchs intéressants. Mais c'est un vrai plaisir quand on aime le foot. Et Philippe, ce matin, qui va dire le contraire, on a connu un peu, nous, le Matra Racing.
Oui, alors justement, j'allais le dire, mais ça a été un échec, le Matra Racing. Hein.
Ouais, ça a été un échec parce que justement, le Matra Racing, il a, à l'époque, il était perçu un petit peu comme le... Pas à ce point-là, parce qu'on ne peut pas comparer, mais un peu comme le PSG d'aujourd'hui, quoi. Ouais. C'était un peu le club qui achetait avec ses millions. Ils ont pris, je vous rappelle, leur fait d'armes, c'était d'avoir pris Luis Fernandez.
Oui, puis Francescoli aussi. Francescoli aussi.
Voilà. Et ça a été... Ils n'ont pas fait du tout. Ils ont fait un petit peu... on va dire, ils se rapprochent plus du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui à mettre beaucoup d'argent... pour Pascal Olmeta, je me rappelle, à mettre beaucoup d'argent pour Maxime Bossy, des internats français de l'époque, pour réussir. Et je ne pense pas qu'avec un club comme... Mais le Paris Saint-Germain n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et je ne pense pas que le Paris FC va prendre la même tournure. Déjà, il faut voir où ils vont jouer.
Oui, parce qu'il y aura aussi le problème du stade, parce qu'on se rappelle qu'une des erreurs du Matra Racing, ça avait été de jouer au Parc des Princes, hein, qui était l'entité même du PSG. Là, le Paris FC, s'il monte en Ligue 1, dans les 2-3 ans, il va falloir quand même qu'il trouve un stade, hein, parce que Charletti, c'est pas possible en Ligue 1.
Non, tout à fait. Alors, on parle peut-être de Jean Bouin.
Oui, enfin, il y a le rugby. Hein. Donc,
peut-être, pourquoi pas, éventuellement, genre, je ne sais pas, l'Accor Arena, par exemple.
Faut partager.
Non, je ne sais pas. C'est un stade, je crois qu'il y a 17 000, entre 15 et 20 000. Ouais. Le rugby joue, mais ne le remplit pas. Et puis je ne suis pas sûr que le rugby, d'ailleurs, qui est le Racing, va continuer à jouer là-bas. Donc peut-être qu'il y a une piste par là, et puis peut-être dans 10 ans, dans une dizaine d'années, quand le Paris Saint-Germain aura son nouveau stade, bah, peut-être qu'ils seront candidats pour récupérer le Parc des Princes, je ne sais pas.
Ouais. Bon, près de chez nous, à Montigny-le-Bretonneux.
Ouais, ça c'est pour le Paris Saint-Germain, il faut espérer que ça...
Près du Vélodrome,
c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose pour le football. Il faut quand même savoir, il faut savoir quand même qu'on est là, je crois qu'en Europe, on est la seule capitale européenne à ne pas avoir au minimum deux clubs parmi dans l'élite. Quoi. Oui. Donc, je ne te parle pas de Londres.
C'est vrai, en plus.
Donc, c'est assez incroyable. Quoi, que c'est vraiment quand on parle de pays de foot, quand on parle de culture, de foot et tout ça, c'est quelque chose qui saute aux yeux, qui saute tout de suite à l'esprit, quoi. C'est assez hallucinant, quoi, qu'on n'ait pas de grands clubs, quoi. Donc, au moins deux clubs.
Oui, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, hein, pour l'ensemble du foot français et du foot parisien, et y compris pour les droits télé. Hein. Allez, On va donc revenir maintenant à la D1 féminine, la quatrième journée. Donc Lyon qui bat Dijon 3-0, victoire du Paris FC devant 1-3-2, victoire du PSG à Nantes 1-0. Donc Lyon en tête avec 12 points et le PSG aussi, mais un goal d'avantage supérieur pour les Lyonnaises. Et puis troisième, Saint-Etienne et le Paris FC avec 9 points, Stéphane.
La surprise, c'est quand même Saint-Etienne.
Oui, c'est bien.
Parce que Paris FC, jusque-là, on était habitué à... Et c'est bien, ouais, c'est très bien, ça montre que ça a évolué. On a été habitué très longtemps à Lyon, Paris et Montpellier. Mmh. Après, il y a eu Paris FC qui est devenu une place forte du foot féminin. Après, il y a eu un moment entre les deux, il y a eu Bordeaux qui a eu des bons résultats. Malheureusement, les pauvres Bordelais, ouais. ils ont dégagé, entre guillemets. Et puis là, il y a à voir Saint-Etienne qui se retrouve là, c'est assez remarquable, quoi. Donc ouais. Ça prouve qu'il y a des efforts qui sont faits par tous les clubs professionnels pour essayer de... Ce qui n'était pas le cas du tout, même si on parle il y a 10 ans, il n'y avait même pas un club en D1 féminine par équipe professionnelle, quoi. Donc c'était assez malheureux, quoi. Mais non, là c'est bien, ouais, et ça va être chaud, ça va jouer encore. Alors, ça jouera au play-off, hein, de toute façon.
Oui, entre Lyon et
derrière. Hein.
Bah oui, entre Lyon et le PSG, probablement. Justement, les Lyonnaises qui ont battu Galatasaray 3-0 en Ligue des Champions, hein, ce sont les seuls rescapés, hein, puisque le PFC et le PSG, on l'avait dit il y a quelques semaines, sont éliminés. Donc, ils vont jouer à Wolfsburg cette semaine. Donc, voilà.
Ouais, je crois que Lyon, par rapport à la saison dernière, j'ai l'impression que Lyon s'est quand même encore renforcé, est encore plus fort. Hein. L'Olympique Lyonnais de cette saison, j'ai l'impression qu'ils sont encore, qu'ils ont encore monté d'un cran, quoi. Donc moi, je pense que je prédis qu'ils vont aller très loin. Je les vois bien même peut-être remporter, même si la concurrence est de plus en plus rude. Remporter la Ligue des Champions cette saison, les Lyonnaises, quoi. Donc je pense qu'ils sont plus forts, qu'ils sont bien renforcés. Ils sont plus fortes encore que la saison dernière.
Très bien. Merci Stéphane. Rendez-vous la semaine prochaine. Hein, le championnat, ça repartit. Et puis, donc ce soir, 20h45, Belgique-France sur mon Paris FM et débrief ensuite avec El Hadji et toute son équipe. Voilà.
Ok, pas de problème. Allez, bonne soirée à vous.
Bye.
Bon match.
Merci Stéphane. Alors, je voulais juste, Alexandre, un petit mot sur le Paris FC. C'est vrai que Eman Bassioni, qui était venu il y a 15 jours, hein, le maire adjoint chargé des sports du Paris 13e, quand on avait évoqué la situation du Paris FC, nous avait dit, vous allez voir, ça va bouger, il y aura des petites... je ne peux pas vous en dire plus, ça va bouger. On a compris pourquoi.
Il savait des choses, forcément, il ne voulait pas nous les dire, ce qui est totalement normal. Mais non, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, comme l'a dit Stéphane, d'avoir un autre club dans la capitale qui puisse monter dans l'élite. Mmh. On est l'une des seules en Europe à ne pas l'avoir. À Londres, ils ont 4-5 clubs. Enfin, je veux dire, on est en retard sur ça. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Et puis, la famille Arnaud qui veut prendre son temps.
Oui. Et là, c'est des Français, hein, c'est pas des fonds d'investissement.
C'est des Français. Et puis, le fils de la famille Arnaud est un fan de foot. Hein. Oui, il ne va pas arriver et ne rien y connaître et balancer
les millions. J'espère qu'il fera des bons choix. Pas comme le Matra Racing.
C'est pour ça que le fait qu'il y ait Red Bull 15%, c'est une très bonne chose aussi.
Alors, avant de finir avec nos amis du trampoline, tu voulais donner peut-être la composition d'équipe. Ça y est, il y a la feuille officielle, la feuille des matchs.
C'est ça. 4-3-3 pour la Belgique. Castels dans les buts. Debast, Fess, Théâtre et Castagne en défense, De Cateler, Mangala, Tillmans au milieu de terrain, Doku, Openda, Trossard en attaque. Pour la France, pareil, 4-3-3, Mike Maignan dans les buts, Koundé, Saliba, Konaté et Digne en défense, Tchouaméni, Koné, Gendouzi au milieu de terrain, et Dembélé, Colomoigny et Barcola sur la ligne d'attaque.
Très bien. Et puis,
composition un peu différente, mais pas mal.
On verra bien. Merci en tout cas, Alexandre. Les Jeux Olympiques, alors, vous les avez vécus comment? Vous avez suivi? Vous avez été spectatrice, Joël?
Les Jeux Olympiques, j'ai été supportrice surtout.
Oui.
Parce que c'était un moment assez exceptionnel à vivre. On a eu
vous avez
chance
eu des billets,
en France.
Vous avez été
J'ai acheté mes billets il y a un an et demi, avec les PAC. Et j'ai pu aller voir le trampoline, ça c'était sûr, mais j'ai pu voir du volley, j'ai pu voir de l'athlée, j'ai pu voir plusieurs sports. Et c'était un engouement tellement exceptionnel. Et de voir la France avec cette énergie, c'était quelque chose à vivre. Quoi.
Bon, nous, bon, on en parlait tout à l'heure, ça ne nous a pas surpris, mais tout ce batching qu'il y avait contre les jeux, quoi, c'était fou. Quoi.
Oui, bah, je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui doivent regretter d'être parties dites à ce moment-là. Voilà, mais en tout cas, nous, on a pu vivre ça franchement d'une manière exceptionnelle. Et puis, l'organisation était quand même dingue. Et puis, bravo aux Français, aux athlètes paralympiques et olympiques, parce que c'était génial.
Et je peux vous dire qu'on a passé la journée au Salon de l'Auto. Hein, et, donc, porte de Versailles, il y avait encore des petits panneaux. Ici, ont eu lieu des grands événements. On a vécu des choses de fort. Ouais.
Oui, bah, ça, j'ai vu sur marque. Le périph', ils ont retiré Paris 2024. Ouais, ça fait un peu mal au cœur, parce que du coup, c'était vraiment exceptionnel. Et c'est vrai que quand on voit la publicité, les panneaux qu'il y avait dans la ville, ça rendait les choses magiques.
Tiens, d'ailleurs, on aura une interview d'une pratiquante de sport automobile féminine qu'on a eu l'occasion de rencontrer, d'interviewer, en même temps que le président de la République qu'on a croisé puis interviewé. Vous allez finir donc, Mathilde, ces Jeux Olympiques, vous les avez vécus comment ?
De la même manière que Joël a pu le raconter. Après, j'ai eu la chance d'aller voir les épreuves masculines de trampoline. Oui, donc c'était vraiment génial. Là, parce qu'on a l'habitude de voir des compétitions de trampoline dans des salles assez petites. Mm-hmm. Là, de les voir à l'Accor Arena, c'était juste incroyable, surtout avec tout le public français et notre représentant Pierre Gouzou pour les équipes masculines, pour les garçons.
Oui.
Et Léa pour les filles. Mais donc, c'était absolument génial de voir... En l'occurrence, pour les garçons, le nom de Pierre scandé dans tout la Grand Arena, c'était vraiment quelque chose. Ah, mais totalement. Surtout qu'on a vécu une super qualification et une super finale. Donc, c'était génial.
Et Jolan, comment tu les as vécu ? Toi, tu as été voir les copains de
l'INSEP ? Non, moi, je les ai vus de loin, les Jeux Olympiques, parce que je n'étais pas présent à ce moment-là.
Ah, t'as pas de regrets ?
Si, un petit peu, quand même.
Ah bah oui, quand
j'aurais
même.
J'aurais bien aimé, surtout que j'avais des places de la fédération.
Oh là là.
J'aurais bien aimé les voir, mais j'ai pas pu.
D'accord, ok. Donc, t'as pas. Enfin, tu peux être fier aujourd'hui, quand même, de ce qu'on a vécu pour les sports olympiques, qui ont été mis en valeur encore, peut-être encore plus qu'à la normale.
Ouais.
Très bien. Merci en tout cas, Jolan. Merci donc, Mathilde, hein, d'avoir terminé cette interview. Joël, merci, un petit mot à dire, non ?
Oui, bah merci, Philippe, de nous avoir invités, hein, d'avoir parlé de trampoline. Et puis, voilà, nous, on organise le championnat régional aussi à Courbevoie le 23 mars. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre aussi. Et si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à aller sur le site internet du Trampoline Courbevoie. On sera ravis de vous accueillir au gymnase. C'est juste à côté de la Défense, au bureau de l'Arche. Mm-hmm. Donc voilà, facile en transport.
Voilà. Et puis Vanessa, qui doit aussi aller faire du curling un mercredi, bah elle ira aussi donc, faire un petit tour donc, dans ces épreuves de trampoline. Merci Vanessa, rendez-vous la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Ouais. Merci Alexandre, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine pour mon Paris Sport. Et puis
tout à l'heure pour le match.
Merci en tout cas à notre ami Léonard d'avoir été une nouvelle fois brillant aux manettes ce soir. Et puis dans quelques minutes, donc le match Belgique-France sur mon Paris FM avec LAG et toute la bande. À tout à l'heure.
Je veux juste briller comme une étoile. J'ai toujours dû su me débrouiller. La vie n'est qu'une escale. Et si je dois plier, c'est sous l'impact des balles. Mais tu ne m'entendras pas crier, car j'ai un gilet pare-balles. Enculé, je serai rapatrié, enterré au Sénégal. Enfin, je pourrai trouver le calme. Je serai seul comme une étoile. Comme une étoile, j'ai disparu depuis longtemps. Mais tu me vois toujours briller, toujours scintiller. J'ai pris les petits sentiers, quitté le chantier. Haute scène, obscène, africain comme un entier. Libéré de mes entraves, me venger comme un droit. J'ai couru comme un esclave, fort marché comme un roi. Malheureusement, je n'ai pas su marcher très droit. J'ai gardé mon automatique et mes amis près de moi. Tu trouves que la terre est belle, elle est plus belle vue de là-haut. Un nègre est un bon nègre quand il est dead sur le carreau. J'éclaire si les barreaux sur ces notes de piano regrette l'époque du Raluciano.
avec le royal. Dernier voyage, fais péter le son dans la go, rends-moi hommage. J'ai tout ce que je mérite, trouve pas ça dommage. Ni pute ni soumise vont se réjouir, ces sales connasses. Banlieusard dans le sang, peu importe ce que Sarko fasse. 92 sur sarcophage, et le piano m'endort. Terminator est mon mentor, récupérer mon or, j'en rêve encore. Juste briller comme une étoile, j'ai toujours dû se me débrouiller. La vie n'est qu'une escale, et si je dois plier, c'est sous l'impact des balles. Mais tu ne m'entendras pas crier, car j'ai un gilet pare-balles. Enculé, je serai rapatrié, enterré au Sénégal. Enfin je pourrai trouver le calme, je serai seul comme une étoile. On ne m'entendra plus, on ne me verra plus.